Vous écoutez RTL.
7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez sur RTL. Nous sommes ce matin donc avec Éric Coquerel. Merci d'être avec nous, Éric Coquerel. Député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, je le disais il y a quelques instants. D'abord, une première d'actualité, nous en parlions dans nos différentes éditions ce matin. Les députés de La République En Marche vont présenter en commission un amendement pour priver de leurs droits civiques, Éric Coquerel, les gros fraudeurs fiscaux qui se font prendre. Est-ce que ça vous intéresse ?
Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas ?
C'est un amendement que vous pourriez voter ?
Bah écoutez, je vais regarder le détail de l'amendement. Alors notamment, savoir si c'est uniquement sur les fraudeurs, j'allais dire, à titre personnel, ou si on englobe par exemple aussi les responsables d'entreprise dans leur activité professionnelle. Il faut voir un petit peu. Mais pourquoi pas ? Mais nous, ce qu'on note, c'est qu'on avait proposé déjà quelque chose il y a quelques semaines de cela, en plein été, avec, notez-le bien, c'était notre initiative, on avait été le proposer avec les Républicains constructifs, le PC, le PS, qui était de faire sauter le verrou de Bercy.
Vous savez, je vois bien l'image, mais concrètement...
Voilà, merci. On a une juridiction spéciale dans ce pays, il faut le savoir, qui fait qu'un fraudeur fiscal passe d'abord par Bercy pour savoir s'il va aller en justice de manière normale. C'est quand même quelque chose qui ressemble un peu au Moyen-Âge, c'est étonnant, et qui fait que vous pouvez frauder à des niveaux très très hauts dans ce pays, et à un moment donné, sans craindre la justice. Donc on était beaucoup à se dire, c'est pas possible.
C'est ce qu'on appelle des négociations. Alors, elles peuvent choquer.
Mais imaginez des négociations au tribunal, qu'est-ce que vous diriez ? Quelqu'un a volé, fait un braquage dans un magasin, il négocie avant de passer en justice. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Et donc, on s'était retrouvés avec vraiment de manière transversale ça au niveau politique. Et j'avais noté que les députés d'En Marche y étaient sensibles. Monsieur Darmanin a dû ouvrir une mission. Vous savez, les missions sont souvent faites pour endormir les idées.
Voilà.
Donc, est-ce que ça, c'est un petit coup de barre, etc. ? On va le regarder en détail. Nous, on n'a rien contre faire avancer les choses si ça va dans le bon sens.
Je précise que Sébastien Chenu, pour le Front National, explique qu'il s'agit d'un amendement bidon pour masquer le fait que La République En Marche est la majorité qui protège les plus riches dans notre pays. Vous ne partez pas, vous, directement sur ce procès d'intention.
Là, vous me posez la question sur un amendement.
Oui.
Donc nous, quand il y a un amendement qui fait avancer des choses, on n'est pas contre le voter. Ça ne remet pas en question le fait qu'on considère que le budget qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est le budget des hyper-riches, pour les hyper-riches, qui de manière évidente.
Alors, je note en tout cas que vous êtes d'accord pour débattre de l'idée en ce qui concerne cet amendement pour priver de leurs droits civiques les gros fraudeurs fiscaux. Et on en vient justement à ce contre-budget que vous présentez. Pourquoi faire exactement, Éric Coquerel ? Et on a même envie de vous dire, courtoisement, mais ça sert à quoi ?
Vous savez, nous, on est une force de gouvernement, France Insoumise. Donc, on cherche toujours non seulement à s'opposer, parce qu'on s'oppose radicalement à la politique qui est menée, je vais expliquer pourquoi, mais aussi à montrer qu'on est force de proposition, que nous pourrions gouverner sur d'autres bases. Vous savez que quand on discute du budget, il y a ce qu'il appelle l'article 40. L'article 40 fait qu'on ne peut pas faire n'importe quel amendement. Il faut qu'un amendement qui, par exemple, propose des dépenses qui ne seraient pas compensées par d'autres recettes, ne peut pas être proposé. Donc ça canasse pas mal le débat, parce qu'on voit bien qu'on est obligé de rentrer dans une logique, par exemple, qui est une logique d'austérité. Donc ce contre-budget va nous permettre de nous exonérer de cette question, de nous exonérer aussi... de la question de la règle d'or, ces déficits à 3%, sacro-saint chiffre qu'on veut à chaque fois nous imposer au nom de l'Union européenne avec l'accord des gouvernements français, et puis de montrer ce que nous semble bon pour le pays. Quelque part, notre budget, c'est celui de l'intérêt général contre le budget des hyper-riches.
Et
c'est
Éric ça que nous mettons Coquerel, en place. On comprend très bien les idées que vous défendez, mais est-ce que ça veut dire qu'à un certain niveau, pour la France insoumise, les déficits, ça n'existe pas et ça n'a pas d'importance ?
Pour la France insoumise, le premier déficit, je vous réponds, le premier déficit le plus important, c'est le fait que nous puissions continuer à vivre sur cette planète. C'est-à-dire, c'est celui de la règle verte que nous voulons constitutionnaliser, qui par exemple permettrait de ne pas consommer ou produire plus que la Terre ne peut absorber. Vous savez, c'est ce fameux jour qui depuis 30 ans a reculé en gros du 30 décembre, aujourd'hui on en est presque à début août. C'est ça aujourd'hui qui est la dette la plus importante léguée aux générations. Et à partir de là, notre objectif, c'est déjà de réorienter l'économie. La deuxième chose...
Ma question, c'est est-ce que le déficit, on s'en fout à la France insoumise ?
Je vais vous répondre. La deuxième chose, c'est que depuis 30 ans, on a eu un basculement du partage des richesses, parce que les richesses n'ont pas cessé de croître dans ce pays. Il ne faut pas croire les déclinistes qui donnent l'image d'un pays qui ne serait plus capable d'assumer ses dettes. Tout ça est faux. Mais simplement, vous avez en gros 150 milliards par rapport à il y a 30 ans qui sont partis des revenus du travail... vers les revenus du capital, et pas n'importe quel capital, celui qui n'investit pas, celui qui spécule, celui qui joue sur le dumping social. Donc ça, on veut faire en sorte de remettre cet argent dans l'économie réelle, et de relancer l'activité. Et fort de ce cercle vertueux, nous pensons que nous pouvons non seulement ne pas produire beaucoup de déficits, mais même revenir finalement à une moyenne qui serait inférieure à celle de François Hollande et Nicolas Sarkozy.
Et c'est donc pourquoi vous allez proposer aujourd'hui un contre-budget très explicitement. Que se passe-t-il dans la tête de Jean-Luc Mélenchon ?
Tout va bien, pourquoi ?
Non, vous pouvez. On dit qu'il a en permanence des sautes d'humeur. Tout journaliste qui croise une fois dans sa vie, Jean-Luc Mélenchon.
J'essayais de savoir qui était.
Donc j'en ai fait partie, je peux le prendre pour moi si vous le souhaitez.
J'ai compris votre question. Tout va bien.
Et on se dit, en ce moment, clairement, est-ce que ça va bien ?
Voilà, alors donc.
Est-ce qu'il est dépressif ?
Pour vos auditeurs, tout est parti du.
Je parlais, moi, je le cite. Emmanuel Macron a réussi à mettre en place des réformes libérales et a le point pour l'instant.
Voilà, pour l'instant. Écoutez, c'est lucide. C'est pas parce que vous êtes lucide que vous êtes dépressif, parce que sinon il y a beaucoup de gens qui seraient encore plus de gens qui seraient dépressifs dans ce pays. Non, nous ce qu'on constate une chose, c'est que.
Mais c'est un constat d'échec. Est-ce que vous faites un constat d'échec les uns les autres en ce moment ? Voilà.
Au moment où je vous parle, là, nous n'avons pas réussi. Quand je dis on, c'est global, c'est les oppositions politiques que nous représentons, sociales que représentent les syndicats, les mouvements de geste. Nous n'avons pas réussi à bloquer un projet antisocial, inégal. Et d'austérité, j'allais dire, incomparable dans la Ve République.
Donc vous faites un aveu d'échec, c'est très rare en politique. J'ai bien compris. À l'instant, sur cette première partie de quinquennat, en tant qu'opposition face à la politique d'Emmanuel Macron, je vous ai bien compris.
Nous ne sommes pas parvenus à le bloquer, parce que, bien évidemment, on a fait tout notre job, je crois, à l'Assemblée, chacun nous reconnaîtra, beaucoup plus que ne représente notre groupe de 17 élus, plus les élus communistes avec lesquels on se retrouve souvent en face de ce point de vue-là, mais on n'est pas de taille à lui. On peut résister, on peut argumenter, mais on n'est pas de taille à lutter contre plus de 300 députés. Par contre, nous pensons que la majorité que nous ressentons opposée à la politique d'Emmanuel Macron, il faut qu'elle s'exprime dans la rue, dans les grèves, dans les manifestations. Et pour l'instant, ce n'est pas au niveau nécessaire. Mais dire ça ne veut pas dire que demain, ça ne sera pas.
J'ai bien compris, mais je me dois de vous faire remarquer que c'est courageux de reconnaître, en tout cas, un échec dans une première partie d'opposition.
Si on est courageux,
en fait, vous refilez le bébé à la rue. C'est vous-même qui venez d'utiliser l'expression.
Non,
c'est
extraordinaire. On a toujours dit que, vous savez, dans la démocratie, contrairement à ce que pense Emmanuel Macron, la question de la mobilisation sociale, elle fait partie de la démocratie. C'est un des aspects de la démocratie. On le voit dans toute la Ve République. Quand vous avez eu des manifestations pour montrer que le peuple n'est pas d'accord avec un projet, et bien souvent, les gouvernements finissent par être raisonnables et le retirer. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Donc, nous pensons qu'il y a le potentiel pour ça. Nous le sentons. Et donc, la question, c'est comment on l'exprime. On a fait des propositions. Vous vous rappelez de grandes marches, y compris derrière les syndicats, pour un week-end, pour montrer qu'il y a des centaines de milliers de personnes prêtes à s'opposer.
L'opposition des syndicats est aussi un échec en ce moment, face au macronisme actif.
Attendez, déjà, moi je reconnais aux syndicats qui se mobilisent le fait qu'ils se mobilisent. Excusez-moi, c'est déjà ça. C'est pas eux qui sont responsables de la désunion syndicale.
Oui, mais ils voulaient pas de vous dans les manifs, je me permets de vous le rappeler.
Non. Vous confondez deux choses. Les manifestations syndicales, traditionnellement, nous on est toujours. Les mouvements politiques ne sont pas derrière les organisations syndicales lors des manifestations de semaine. C'est un grand classique.
Et pourtant, le 16 novembre, vous y serez.
Et le 16 novembre, on soutient, on appelle les gens à mobiliser, mais on n'est pas en cortège politique, en tout cas à Paris, c'est pas la tradition, dans les manifestations. Par contre, nous disons que nous sommes disponibles à un moment donné pour montrer un rapport de force supérieur à une initiative qui pourrait avoir lieu un week-end, pourquoi pas. Mais plus encore, on pense que c'est la jeunesse qui a la clé, très certainement, de la question, avec la nouvelle loi sur l'université, qui est une sélection déguisée et qui, à la rentrée universitaire, parce qu'il a eu des vacances...
Vous me dites quoi, là, que vous espérez que l'étincelle viendra des jeunes ?
Oui, parce que souvent, je vous fais remarquer, y compris sur des mouvements sociaux, je pense au CPE, vous avez très souvent, les jeunes ont été l'élément permettant de dynamiser, permettant de provoquer un raz-de-marée sur lequel les gouvernements ne résistent pas. C'est pour ça qu'ils sont très inquiets en général.
Et vous les appelez à descendre dans la rue, cette jeunesse de France ?
On les appelle à se mobiliser, oui, parce que la loi qui va leur être proposée de sélection à l'université... Universités dans lesquelles les conditions d'études sont déjà très mauvaises, la loi qui est proposée est une loi de sélection qui cache son nom. Alors on parle de filtre, de canaliser, d'orienter différemment, mais enfin bon, ne nous l'aurons pas. Un lycéen aujourd'hui ne pourra plus aller dans l'université de son choix. C'était déjà le cas à cause de la politique d'austérité. Là, ça deviendra un principe.
Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on doit quand même toujours faire attention quand on appelle la jeunesse à descendre dans la rue ?
C'est-à-dire ?
Ben ça peut, il y a des enjeux, il y a des enjeux de sécurité pour eux, pour vous.
Oui,
non, mais on est d'accord, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais
non,
quand
mais
même.
La jeunesse, excusez-moi, la jeunesse.
Non, mais il y a une responsabilité en tant que. Quand on est député, oui. À dire aux jeunes Français, descendez dans la rue, allez manifester
mais,
avec nous.
Oui, mais moi,
vous l'assumez.
Vous savez, oui, bien sûr, moi, je suis un député, je ne sépare pas. Ce que je fais à l'Assemblée, du fait de rester un militant, d'être dans la rue, dans les mobilisations, aux côtés des migrants, aux côtés des syndicalistes, je ne sépare pas les deux.
Les 24 et 25 novembre prochains, vous réunissez en convention à Clermont-Ferrand, une convention pour structurer votre mouvement. Pourquoi ? C'est à ce point peu structuré, la France Insoumise ?
Non, mais vous savez que c'est un nouveau mouvement, vous avez remarqué.
Oui, ça ne m'a pas échappé.
Bon, qui est né sur une campagne. Donc, il faut bien.
C'est exactement dans la même situation que La République En Marche. Alors.
Enfin, oui, d'accord. Bon, si vous voulez. Donc, non, je ne vais pas parler de La République En Marche, j'ai perdu du temps. Donc, l'idée, c'est d'installer un mouvement pérenne. Il y a 5000 groupes d'appui aujourd'hui qui sont la structure de base de ce mouvement. Il y a plus de 500 000 signataires. Il y a des gens qui continuent à signer. Et c'est de savoir comment ça s'installe dans le temps, comment ça permet d'agir, comment ça permet de réfléchir, sans pour autant devenir un parti. Pourquoi pas devenir un parti ? Parce que je ne pense pas aujourd'hui qu'un parti en France soit capable de rassembler des centaines de milliers, voire des millions de personnes.
Oui.
Et c'est l'objectif que nous nous donnons. Vous savez, nous, on veut fédérer le peuple, l'implication citoyenne. Et bien pour ça, il faut d'abord un mouvement qui soit capable, par le nombre, de commencer à synthétiser ça, à le représenter. C'est ça l'idée de France Insoumise.
La prochaine échéance électorale, ce sont les élections européennes en 2019. Est-ce que vous avez un rôle à jouer ? Est-ce que vous êtes en train de vous y préparer ?
Oh oui, c'est assez loin, mais comme c'est la prochaine échéance qui aura deux enjeux, d'abord, ça sera un vote sanction par rapport à la politique d'Emmanuel Macron.
Vous savez, je vous pose la question, parce qu'on avait tous été marqués, puisqu'au début du mois d'octobre, vous aviez demandé qu'on retire le drapeau européen de l'hémicycle.
Oui.
Alors, je ne sais pas, ça a marqué les esprits, symboliquement, c'était fort, et ma question, c'est est-ce que vous allez vous engager aussi fortement dans cette élection européenne ?
Comme vous ferez remarquer que nous sommes une force qui nous engageons dans le débat européen depuis des années. Contrairement à d'autres qui, à certains moments, nous disent Europe, 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 au moment des élections nationales, n'en parle jamais.
Vous êtes
nous disons que cette Europe-là ne peut plus continuer telle qu'elle est, parce qu'elle est en train d'enterrer l'idée européenne au profit d'un dumping social, d'une concurrence entre les peuples, qui est en train de déliter, y compris les consentements nationaux.
Une toute dernière question, Éric Coquerel, fallait-il sortir de l'état d'urgence ?
Ah, il fallait en sortir et pas rentrer dans un état d'urgence permanent comme la loi le fait. C'est un très mauvais coup pour la démocratie, on s'en rendra compte avec le temps. On vient quand même de voter une loi qui institue de manière définitive, en tout cas permanente, le fait qu'on n'a plus besoin de la justice pour contrôler l'exécutif, c'est vraiment gênant.
Donc pour vous, l'état d'urgence en fait continue ?
Bien sûr que c'est continu.
Sous une autre forme.
Toutes les mesures de l'état d'urgence sont carrément recyclées dans cette loi, alors même que les actions contre le terrorisme peuvent très bien se faire dans le cadre d'un état de droit. À partir du moment où on embauche suffisamment de gens à la justice.
Merci beaucoup Éric Coquerel. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et que vous présentez notamment avec votre formation politique aujourd'hui votre contre-budget. Bonne journée à vous.
Merci.